Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, messieurs, bonjour. Il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris et 3h en temps universel. Vous écoutez SBS French, votre programme en français sur la radio SBS. Je suis Marianne Murat et après plusieurs semaines d'absence, je suis très heureuse de vous retrouver et de passer cette heure avec vous. Au programme aujourd'hui, les dernières informations suivies du journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse. Comme chaque jeudi, la chronique écho, on y parle aujourd'hui d'un sujet primordial, celui des violences conjugales. Les victimes pourraient avoir droit désormais à un congé payé de 10 jours. On parlera aussi politique à 2 jours des élections fédérales. Puis vous entendrez la deuxième partie de l'interview de Suzanne Faulkner qui nous fait voyager 200 ans en arrière, rien que ça. Un programme riche donc, et on commence avec le journal. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 19 mai, J-2 donc, avant l'élection fédérale en Australie. Aura-t-on un nouveau Premier ministre ? Eh bien, la bataille entre Scott Morrison et Anthony Albanese fait rage et chacun avance ses derniers pions. 85e jour de la guerre en Ukraine, un procès pour crimes de guerre s'est ouvert à Kiev contre un jeune soldat russe, c'est une première. Et enfin, l'Organisation des Nations Unies alerte une fois encore contre le réchauffement climatique et prévient que le système énergétique mondial conduit tout droit l'humanité à la catastrophe. On ouvre ce journal par un mot de politique australienne et on vous le disait en titre, plus que 2 jours avant les élections fédérales, l'actuel Premier ministre Scott Morrison persiste et signe sur la question des visas temporaires. La politique migratoire du gouvernement ne changera pas si le parti gagne et donc reste au pouvoir. Une annonce faite lors d'une interview exclusive donnée par l'actuel Premier ministre à SBS, on l'écoute.
For anyone who has come to Australia, who has illegally entered Australia, then we have temporary protection visas, and that will always be Australia's policy. We are very clear about that, and in order to have a successful migration program, there has to be very clear rules about how you come into Australia. But our broader refugee and humanitarian program is one of the most generous in the world. I mean, right now, we have already processed visas for some around 7,500 Ukrainian refugees.
Parmi les autres thèmes abordés lors de cette interview, celui de la gestion de crise du Covid-19, celui de la relation fracturée entre l'Australie et la France depuis l'affaire des sous-marins, mais également l'état de la relation entre l'Australie et la Chine. Pour Scott Morrison, il faut faire la distinction entre la relation diplomatique, qui, elle, continue de se dégrader depuis la signature d'un accord de sécurité entre Pékin et les îles Salomon, et la relation entre personnes, australiennes et chinoises, qui, elle, est au beau fixe. Écoutez.
There is a great desire and interest in Chinese people to be able to come to Australia, have a holiday, study here, have great connections, be cultural connections and ensure, of course, business connections and trade. And this is what we want to see happen into the future. But at the same time, Australia will always stand up for the liberties and the freedoms and the things that are very important to us. And we can't have a situation where any other government from any other country, including the Chinese government, would seek to coerce Australia.
On reste en politique et le Parti travailliste devrait expliquer aujourd'hui comment il compte financer ses promesses de campagne s'il gagnait les élections. Anthony Albanese a déjà décliné publiquement quelques idées. Par exemple, il souhaite supprimer 750 millions de dollars de subventions gouvernementales qu'il qualifie de gaspillage. Il souhaite aussi s'attaquer aux investissements étrangers, au secteur public et aux multinationales qui ne paient pas leur juste part d'impôts. Des mesures que conteste la coalition, le Parti libéral reproche aux travaillistes de ne pas avoir communiqué communiquer avec le ministre des Finances afin de prendre ses décisions. Dans le reste de l'actualité australienne, le droit à l'euthanasie, toujours en cours de discussion au Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud ce matin, l'état dans lequel se situe Sydney. Hier, les députés ont débattu pendant près de 12 heures sur une centaine d'amendements. Cette loi doit ensuite repasser sur les bancs du Sénat australien avant d'être officialisée. On le rappelle, l'aide médicale à mourir a été légalisée déjà dans le Queensland. Elle rentrera en vigueur en janvier prochain dans le Victoria, en Australie méridionale, en Tasmanie et en Australie occidentale. En bref, maintenant, les employés des magasins Coles sont désormais éligibles à un congé payé afin d'affirmer leur genre. Un congé payé de 10 jours par an, précisément. Au moins 900 salariés Coles seraient transgenres. Le directeur juridique de la chaîne, David Brewster, a donc expliqué que le supermarché s'était engagé à défendre l'inclusion au travail en offrant ce congé nécessaire et essentiel pour cette transition importante dans leur vie. Fin de citation. On passe à l'actualité internationale et notamment à la guerre en Ukraine. L'offensive russe, c'était il y a près de 3 mois, il y a 85 jours précisément. Une poignée de militaires ukrainiens sont toujours retranchés dans l'usine Azovstal à Mariupol. Selon les soldats russes, près de 1000 d'entre eux se seraient rendus depuis lundi. Aucune indication n'a cependant été donnée concernant le sort qui sera réservé à ces prisonniers. Un manque d'informations claires que déplore le commandant Oleg Supereka, qui espère toutefois que les soldats blessés ont pu tous être évacués.
The latest news from Mariupol, some of those who were on the territory of the Azovstal plant, many of them were taken out. By the way, not only the Azov battalion, but also representatives of the 21st and 36th brigades, maybe even from some other units. These are not all the wounded, but only those in the worst condition.
Et en parallèle, on le disait en titre, un procès pour crime de guerre s'est ouvert contre un soldat russe hier à Kiev. C'est une première. Vadim Chichimarin, 21 ans, est accusé de violation du droit de la guerre et d'assassinat pour avoir tué un civil ukrainien non armé, un civil de 62 ans. Le jeune militaire russe plaide coupable, il reconnaît les faits. Son avocat, Viktor Ovsianikov, espère que son client ne sera pas un exemple. On l'écoute.
Виновным, как я уже говорил, себя признал, он прочитал обвинительный акт, согласился с теми или, ну, с тем, что там изложено.
He took the guilty plea, he read the indictment and agreed with what was laid out there, but the man who doesn't understand legal nuances or the rules on qualification of the articles, he can say, yes, that's how it was, but as I said, I have certain objections to what is laid out there.
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces russes avaient commis, je cite, « des erreurs catastrophiques depuis le début de la guerre ». On écoute un extrait de son allocution quotidienne.
Marauders who've seen normal household appliances for the first time in a foreign country. Old Soviet armor without modern protection. Prohibited phosphorus bombs with which they burn down schools and ordinary residential buildings, and missiles, most of which were spent by the Russian army on the destruction of absolutely civilian infrastructure without a strategic military result.
C'était le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'exprimait au 85e jour de la guerre. C'est désormais officiel, la Finlande et la Suède ont déposé leur demande d'adhésion à l'OTAN, un processus qui risque d'être long toutefois, puisque la Turquie a bloqué les négociations. Ankara qui accuse ces deux pays de soutenir le terrorisme, notamment le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et le YPG, les unités de protection du peuple kurde en Syrie. Les membres de l'OTAN vont donc devoir négocier maintenant avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, puisque l'adhésion à l'alliance militaire ne peut se faire qu'à l'unanimité. Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité, se dit pourtant confiant.
Finland and Sweden are working directly with Turkey to do this, but we're also talking to the Turks to try to help facilitate. I spoke with my counterpart today. Secretary Blinken is meeting with his counterpart, perhaps as we speak, in New York, and we feel very good about where this will track to.
Toujours dans le volet international, Washington craint la possibilité d'un essai nucléaire nord-coréen alors que Joe Biden est en déplacement en Asie. Le président américain doit se rendre en Corée du Sud et au Japon ces prochains jours. La Maison-Blanche évoque une provocation et un réel risque d'essai nucléaire de la part de Pyongyang. L'analyse de Michael Green, il est ancien conseiller à la sécurité nationale de l'administration Bush.
you can count on North Korea to spoil the party when things are starting to look really good. And there are pretty strong indications that CSIS and others are tracking by satellite that North Korea is preparing for a resumption of nuclear tests and intercontinental ballistic missile tests, which, you know, reminds the world that they are preparing to have the capability to attack Washington and New York with nuclear weapons, which is huge.
Des indicateurs au rouge et la sonnette d'alarme encore et encore tirées à propos du changement climatique, concentration de gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer, température et acidification des océans battant des records, l'ONU dévoile un nouveau rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale. Ce rapport est une litanie lamentable de l'échec de l'humanité à lutter contre le dérèglement climatique. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'ONU, Antonio Guterres, selon qui il va bientôt être trop tard. On l'écoute.
Sea level rise, ocean heat, greenhouse gas concentrations, and ocean acidification set alarming new records in 2021. I will give you the bottom line. The global energy system is broken and bringing us ever closer to climate catastrophe.
La météo de votre jeudi après-midi, il y a des averses à Perth, il fait 22 degrés, nuageux à Adélaïde, comptez 18 degrés, nuageux à Melbourne également, 15 degrés, 14 à Hobart, 15 à Canberra, mais avec du soleil également à Sydney, 19 degrés, des nuages à Brisbane, 24 degrés, comptez 29 degrés à Cairns avec des averses, et là où il faudrait qu'on soit tous aujourd'hui, c'est Darwin, du soleil et 34 degrés. Le rappel des principaux titres du jour. Dernière ligne droite avant l'élection fédérale de samedi, l'opposition dévoile ses plans de financement. 85e jour de guerre en Ukraine, pour la première fois, un procès pour crimes de guerre s'ouvre à Kiev. Et l'ONU alerte sur de nouveaux records des marqueurs clés du changement climatique.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est la fin de ce journal en français. Restez sur SBS French, encore 45 minutes de programme. Tout de suite, c'est le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse. On va parler notamment du Tour d'Italie, le Giro.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Giro, la 11e étape hier remportée par l'Italien Alberto Dainese. Mais on revient sur la 10e étape mardi remportée par Binyam Girmay, premier coureur d'Afrique noire à remporter une étape sur un grand tour. On l'écoute.
This is also part of the success, our team, my family, everybody, you know, so it's, you know, every day they come new history, so I'm really grateful and happy about what I did.
Et voici le reportage de Thomas de Saint-Léger sur place en Italie.
Et les cloches ont sonné comme pour saluer Binyam Girmay, roi d'un jour en Italie, pour toujours héros d'Érythrée et d'Afrique. Son sprint rageur a fait craquer ses rivaux, devenus une accolade plus tard des amis, tous heureux pour ce champion venu d'ailleurs, aujourd'hui adoubé, admis dans la caste des grands, le néerlandais Mathieu Van Der Poel, superstar du peloton.
Ouais, je pense que c'est un vrai talent. Il est encore jeune aussi, et ouais, je pense au futur, ouais, il va être à l'avant de la course toujours.
À l'avant, Girmay est en fait depuis un moment. Le gamin surdoué d'Asmara est repéré jeune, puis formé en Suisse au Centre mondial du cyclisme. Il gagne très vite en Afrique, puis exporte ses talents en Europe, où là encore, sa classe épate. Valerio Piva, directeur sportif d'Intermarché Wanty-Gobert, son équipe depuis un peu moins d'un an.
Il apprend très vite, il ne faut pas lui dire deux fois la même chose, parce qu'il regarde, il voit, il absorbe, et surtout il a beaucoup de talent, donc c'est pour ça qu'on le voit directement performer, ça c'est la qualité d'un champion. Oui.
Un champion venu sur le Giro pour apprendre la science des grands tours et qui après 10 jours de course donne déjà la leçon.
Le foot, la Ligue Europa, la finale hier remportée par les Allemands de Eintracht Francfort contre les Écossais du Glasgow Rangers. Les Allemands gagnent au tir au but 5-4. En Angleterre, Liverpool est à un point du leader, Manchester City. Liverpool qui a battu Southampton 2-1 mardi. Et puis la nouvelle que Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNPF, c'était lundi. On écoute sa réaction.
J'ai fait un discours pour remercier tout le monde. Et j'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que c'est pas l'endroit adéquat. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, et pas pour m'approprier la gloire. Donc non, je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde. Remercier vraiment parce que ça a été une belle saison.
Et le point maintenant avec Simon Bourtembourg pour RFI.
Et 2-3 pour l'attaquant français du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est couronné. Il voit sa saison saluée par tous les joueurs et entraîneurs des deux premières divisions françaises. Ses 25 buts et ses 19 passes décisives en championnat, ils sont certainement pour beaucoup. Il est le meilleur buteur, le meilleur passeur de Ligue 1. Il a été taquiné sur son avenir tout au long de la soirée, lui qui est en fin de contrat au PSG. Mais il n'a donné absolument aucun indice. Un autre trophée ce soir, c'est celui de William Saliba. Il a été élu, lui, meilleur espoir du championnat de France. Le néo-international français s'est illustré cette saison sous le maillot de Marseille. Défenseur central indéboulonnable de l'effectif marseillais, il a pris part à 36 matchs sur les 37 possibles. Enfin, un autre trophée pour la deuxième fois consécutive. Karim Benzema remporte le titre de meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Il a été impressionnant avec le Real Madrid. Il a notamment inscrit 15 buts en 11 rencontres de Ligue des Champions. Samedi 28 mai prochain, il aura une autre occasion de briller. Cette fois, c'est en finale face au Liverpool de Sadio Mané. Une rencontre qui sera sans doute décisive pour la course à un autre trophée, le Ballon d'Or cette fois.
Le prix Marc-Vivien Foé a été décerné également lundi soir. Seko Fofana a été élu meilleur joueur africain du championnat de France de foot, on parle de Ligue 1, et il joue pour Lens et la Côte d'Ivoire. Sa réaction.
En termes de stats, voilà, j'ai marqué beaucoup de buts. Après, concernant les performances, il y a eu des très bonnes performances, mais il y en a eu aussi quand j'étais à l'Udinese. Bon, c'était peut-être un peu moins médiatisé, mais on va dire que, ouais, je dirais que celle-là, c'est la meilleure saison. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien se remettre en question à tout moment, qui se pose des vraies bonnes questions et qui essaie de toujours être meilleur. Mais c'est vrai que ça me va très bien comment je suis aujourd'hui.
Et maintenant, on passe à son portrait avec Hugo Moissonnier pour RFI.
Un milieu capable de suer sang et or. Un héritier de Marc-Vivien Foé. Même poste et même maillot que le regretté Camerounais. Entre les générations, les pays, les émotions, Seko Fofana tire un trait d'union. Capitaine apprécié, puissant box-to-box, comme on dit, l'Ivoirien parcourt le terrain d'un bout à l'autre. Un éléphant qui soigne sa défense et qui se trompe rarement devant les cages adverses. Des buts parfois inscrits sur le gong et qui font chavirer ses fervents supporters. À 27 ans, Fofana fait passer les Lensois des larmes. Au rire, il est au sommet d'un parcours escarpé. Il s'éveille au football dans sa ville natale, au Paris FC. Il s'étoffe notamment en Angleterre. Chez les jeunes de Manchester City, il peut observer un certain Yaya Touré, son idole, à l'entraînement. La suite, difficile à suivre. Londres et Fulham, Bastia, puis direction l'Italie et l'Udinese. En 2020, Lens casse sa tirelire. Pour l'attirer, c'est le coup de foudre. En sélection, il troque le maillot de la France pour celui de la Côte d'Ivoire. L'histoire n'est pas aussi belle qu'avec les sang et or. Et c'est justement pour tout donner à son club que Seko Fofana ne dispute pas la CAN en janvier dernier.
Et voilà, un tout petit extrait de la chanson « Au Nord, c'était les corons ». Idrissa Gana Gueye, joueur du Paris Saint-Germain, a refusé de jouer lors de la journée de lutte contre l'homophobie et il a reçu un large soutien au Sénégal, pays à 95% musulmans. Reportage Antoine Grenier pour RFI.
Pour la deuxième année consécutive, Gana Gueye aurait refusé de porter un maillot floqué aux couleurs LGBT pour s'associer à la lutte contre l'homophobie. Une opération qui s'opposerait aux convictions religieuses du joueur. Si le Sénégalais est très critiqué en France, il bénéficie de soutien dans son pays à l'image du ministre des Sports sénégalais, Matarba.
Je pense que quand on signe un contrat, c'est pour jouer au foot, c'est pas pour abandonner ses convictions. C'est un musulman qui est né au Sénégal, qui a une bonne éducation. Et je pense que le domaine des sports aussi demande une certaine liberté d'appréciation, surtout si ça concerne des convictions. Donc je pense que tout ce qui se passe autour de cette question, tout ce qu'on dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très mal placées. En tout cas, il a notre soutien, il a le soutien de son pays, du peuple sénégalais. Et nous tous sportifs, on est avec Idrissa Gana.
On passe au tennis et à quelques jours de Roland-Garros, on revient sur la bonne préparation pour le Serbe Novak Djokovic pour défendre son titre à Paris. Novak Djokovic était heureux de son 6e titre à Rome. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
C'était Angèle et sa chanson Libre, sortie en 2021, tout de suite, et comme chaque jeudi, c'est l'heure de la chronique écho.
Et bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Cette nouvelle que les employés pourraient bientôt avoir 10 jours de congé chaque année, lorsqu'ils sont victimes de la violence conjugale.
Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que la Fair Work Commission a examiné. Et cette semaine, il y a eu un jugement où ils ont donné leur accord à cette idée qui donnerait donc 10 jours payés à plus de 2,3 millions d'employés, si justement ils sont victimes de la violence conjugale. Et le tribunal donc a conclu que ça serait une mesure très importante pour aider les gens dans cette situation, parce que ça leur donnerait de la sécurité financière pendant ce temps-là. Ils auraient le temps de chercher de l'aide, des services d'aide, ou même du temps pour s'échapper d'une situation violente. Parce qu'actuellement, les employés, ils ont accès à 5 jours de congés payés dans cette situation. Mais voilà, le tribunal a décidé que ce n'est pas assez. Et ils ont précisé que en fait, l'impact financier sur les business serait probablement pas trop. Parce que les business, ils ont dit pendant le procès, bon, comment ça va se passer, comment nous on va payer ça. Et le tribunal qui dit, en fait, il n'y aura pas énormément, il n'y aura pas des centaines de milliers de gens qui vont utiliser ce congé. Il y en aura, bien sûr, ça sera absolument très, très important. Mais quand même, ils pensent que ça ne va pas coûter trop cher au business. Donc, ce n'est surtout pas une raison de ne pas le faire. Les syndicats, pour leur part, ils veulent que le nouveau gouvernement qui est élu après samedi, que ce soit Liberal ou Labour, accepte ces décisions du tribunal et que ça devienne la loi en Australie pour tout le monde. Et en plus, ils veulent que ça ne soit pas juste les employés à plein temps ou à temps partiel qui ont accès à ça, mais aussi les gens qui travaillent juste d'une façon occasionnelle, donc le casual worker. Parce qu'ils ont précisé que souvent, et le tribunal était d'accord, les femmes qui subissent ces genres de violences sont dans du travail occasionnel, du travail sans beaucoup de sécurité. Donc il faut absolument que ces femmes-là, que ces gens-là, ont accès à ces paiements et à cette aide.
Et puis on parle des compagnies de pétrole et de gaz qui sont essentielles à l'économie australienne, mais selon une nouvelle étude, la question qu'on se pose, est-ce qu'elles payent assez d'impôts ?
Oui, voilà, donc c'est la question qui a été posée par la Australia Institute, et donc il faut préciser que cet institut est une organisation un peu plus à gauche, centre-gauche, plutôt favorable aux travaillistes, parti travailliste, mais bon, selon leur analyse, les plus grandes compagnies d'huile pétrolière ici en Australie ont payé presque pas d'impôts depuis 7 ans à peu près, malgré des énormes opérations de la production gigantesque avec une valeur en total de 130 38 milliards de dollars. Donc l'Institut a fait appel à la réforme de ce système pour qu'en fait ces compagnies contribuent plus pour qu'ils payent plus d'impôts. L'organisation qui les représente, ces compagnies, c'est the Australian Petroleum Production and Exploration Association. Et leur chef de cette association s'appelle Damien Dwyer. Il dit que en fait l'industrie contribue déjà des milliards de dollars à l'économie et aussi pour réduire par exemple des émissions de gaz à effet de serre. Donc que ces compagnies ils aident beaucoup le pays déjà. Et le problème c'est que selon l'Australia Institute, des compagnies comme Arrow Energy, Australia Pacific LNG, Chevron, ExxonMobil, des grandes compagnies, Santos et Senex ont payé très peu d'impôts malgré les promesses données avant de lancer leur projet. Donc, elles avaient promis de payer tant d'impôts pour avoir le feu vert pour monter ces projets, ces opérations. Et ils disent que ça s'est tout simplement pas passé. Donc, l'Institut dit que c'était comme si le gouvernement leur donnait les ressources gratuitement. Et ça, ça ne peut pas se faire. Donc, pour le moment, on sait que le gouvernement de Scott Morrison n'a pas de plan pour changer le système. Labour non plus. Mais les Verts, ils disent qu'ils mettraient en place ce qu'ils appellent « the tycoon tax » sur les milliardaires qui, selon les Verts, pourraient ajouter 82 milliards de dollars au budget. Bon, ce qu'on sait, c'est que les Verts ne vont pas gagner les élections samedi. C'est possible que si c'est un hung parliament qu'ils ont plus d'influence, mais ça serait étonnant quand même si on voit ce tycoon tax que ça soit mis en place. Mais peut-être qu'il y aura d'autres changements au système. Faudra bien qu'on voit.
Oui, absolument. Et on ne sait jamais en politique, Nicolas, les Verts peuvent créer la surprise.
Oui, voilà, ils pourraient avoir le balance of power, si ce n'est pas les teal independents qui ont le balance of power, ou peut-être tout simplement Labour ou les Liberals, ils auront un majority government. Mais bon, on attend tous encore quelques jours.
Encore quelques jours. Merci, Nicolas, pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Les élections fédérales en Australie, jour J, moins 2, un dossier de SBS News and Current Affairs. Anthony Albanese a lancé un nouvel appel pour une augmentation du salaire minimum. C'était hier, lors de son discours au National Press Club à Canberra. Les derniers chiffres des salaires publiés montrent que le salaire annuel n'avait augmenté que 2,4%. Le taux d'inflation se situe maintenant à 5,1%, ce qui signifie que les salaires ont baissé de 2,7%. Anthony Albanese déclare que c'est une preuve supplémentaire que les Australiens vulnérables sont les laissés pour compte.
This delivers the biggest cuts to real wages in more than 20 years. Australian workers are paying the price for a decade of bad policy and economic failures.
La coalition maintient que les pressions internationales ont un impact sur l'inflation et le Premier ministre affirme que l'Australie s'en sort mieux que les autres pays.
The challenge is inflation and that's a global challenge. So I draw your attention to the facts. Let's focus on the facts. In Australia, inflation 5.1%. In New Zealand, almost 7. In the United States, 8.5.
Les derniers sondages montrent que l'opposition perd du terrain. Une enquête menée auprès de plus de 1400 électeurs pour Nine Newspapers suggère que le soutien au Parti travailliste a chuté et que la coalition progresse. Anthony Albanese espère que son discours au National Press Club suffira à convaincre les électeurs indécis.
This government are the least transparent, least open, least fed income government in Australian political history. And you know what they did yesterday? they stood up and said, we're going to gut the public service even more. Well, you know what that leads to? Robo-debt. It doesn't save money, it costs money.
Le Premier ministre accuse les travaillistes de ne pas être transparents.
Yesterday, Anthony Albanese did the full Forrest Gump when it came to being asked about his costings. Off he was, running, run, Forrest, run. That's what we saw him from yesterday doing when he was asked the simple question, how are you going to pay for your policies?
Des dizaines d'anciens juges ont fait une intervention rare pendant la campagne électorale, implorant les chefs des partis d'établir de toute urgence une commission fédérale anti-corruption. L'ancien juge de la cour d'appel dans le Victoria, Stephen Charles, a déclaré sur SBS News que l'une des raisons pour lesquelles il pense que le gouvernement a hésité à mettre en place une commission fédérale anti-corruption et que le Premier ministre pourrait lui-même se retrouver mis en examen devant cette commission.
But what the Prime Minister is thinking of is seeing himself up in front of one of these commissions being forced to justify his own misbehavior, which is pretty well established.
Zoe Daniel, l'ancienne journaliste devenue candidate indépendante pour la circonscription de Goldstein dans le Victoria, a fait campagne pour la mise en place d'une commission fédérale anti-corruption.
Look, if there's one umbrella issue that people raise with me in this electorate, it's integrity and accountability. People are really frustrated about oversight. They want to have more oversight of government and those who are leading us.
Ce dossier de Krishnani Danji de SBS News and Current Affairs, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Et justement, à deux jours des élections, savez-vous tout du vote, comment voter, quelles modalités, etc. Eh bien, Thomas Mercier nous fait le point.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Comment voter en Australie ? 17 millions d'Australiens sont inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections fédérales. En Australie, un organisme indépendant gère le système électoral. La Commission électorale australienne veille à ce que tous les citoyens éligibles aient la possibilité de contribuer à façonner notre gouvernement fédéral. Cette semaine, on vous explique comment voter. Le jour des élections, la Commission électorale australienne, ou AEC, attend 1 million d'électeurs toutes les heures dans les centres de vote à travers le pays. Le vote est obligatoire pour toute personne inscrite sur les listes électorales. Vous devez vous assurer de voter dans votre propre circonscription électorale, déclare Jess Lilley, porte-parole de l'AEC.
There are 151 federal electoral divisions in Australia, and we've got a great tool on the website aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in. But you can also give us a call on 13 23 26 to talk to an AEC staff member or access our telephone interpreter services.
L'AEC coordonne des milliers de bureaux de vote le jour du scrutin. Les écoles et les salles paroissiales font partie des lieux où vous pouvez voter. Toutes les informations relatives aux élections sont disponibles sur le site internet de l'AEC.
You'll be able to input your suburb and your postcode, and our tool will help you find who your candidates are, as well as where you can actually cast your vote.
Dans les bureaux de vote, vous avez accès à toutes les instructions et une assistance dans plusieurs langues, explique Evan Henkins-Smith, porte-parole de l'AEC.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast a formal vote.
Les équipes mobiles de l'AEC rendront également visite aux personnes vivant dans des établissements de soins et des communautés éloignées pour s'assurer que tout le monde et accès à l'information. Les électeurs qui ne peuvent pas se rendre dans un bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter d'une autre façon.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well.
Pour une demande de vote par correspondance, visitez le site web de l'AEC après l'annonce de l'élection, explique Madame Lilley.
This year it's going to be really open for postal voting given the COVID circumstances. We'll also have that postal vote application for people who don't feel comfortable going to a polling place or live remotely or working remotely and need to access those postal voting services.
Si vous êtes en quarantaine en raison d'une infection au COVID, vous pouvez accéder au système de vote par téléphone de l'AEC. Les détails seront disponibles après l'annonce des élections. Si vous prévoyez d'être dans un autre État australien le jour du scrutin, vous pouvez utiliser un vote par correspondance ou vous rendre dans un centre de vote interétatique. Vous pouvez également voter si vous êtes à l'étranger. Des formulaires de notification d'un voyage à l'étranger sont disponibles sur le site internet de l'AEC ainsi que différentes options adaptées à votre situation personnelle. Certains hauts commissariats australiens proposent également des centres de vote. Au moment de voter, vous apercevrez à l'extérieur des bureaux de vote les partis politiques distribuer des informations sur le vote. Ne vous laissez pas influencer, indique l'analyste électoral William Bowe.
What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation.
Aux élections fédérales, vous voterez pour votre représentant local.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament and you will not be voting for that leader directly.
Les électeurs reçoivent deux bulletins de vote, un vert et un blanc. Le bulletin de vote vert consiste à voter pour qu'une personne de votre électorat rejoigne la Chambre des représentants, aussi nommée la Chambre basse du Parlement. Il y a actuellement 151 sièges à la Chambre des représentants. Représentant chaque circonscription électorale, explique Monsieur Bowe.
It's in the lower house that the government is formed, and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government.
Le chef du parti ou de la coalition devient premier ministre. Pour voter sur le bulletin vert, vous écrivez le chiffre 1 à côté de votre candidat préféré, puis 2 à côté de votre deuxième choix, et continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les cases soient numérotées. Le bulletin de vote blanc permet d'élire l'un des 76 sièges au Sénat, la Chambre haute. Vous voterez pour élire un sénateur de votre propre État ou territoire. Le vote est légèrement différent, explique M. Bowe. Nous avons des bulletins de vote relativement longs parce que tous les candidats de l'État y sont inclus.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are one for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your six favorite parties and number them in order of your preference from one to six. If you are particular about which candidates you want to vote for, you can number a lot more boxes below the line. If you vote below the line, you have to number at least 12 boxes.
Ce système de vote est appelé vote préférentiel. Numéroter les cases par ordre de préférence permet à votre vote d'avoir plus de poids, déclare Monsieur Bowe.
The seat is not simply won by the candidate who gets the most crosses next to their boxes on the ballot papers. You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates, you look at those ballot papers again, and then you move those votes on to whoever they put second. And you keep eliminating the last place candidate until you end up with a candidate who does have over 50% of the vote.
Assurez de suivre attentivement les instructions de vote. Si votre bulletin vote n'est pas rempli correctement, il devient un vote nul et n'est pas pris en compte dans le résultat de l'élection. Quelques exemples de vote nul incluent le fait de remplir les cases avec une coche ou une croix au lieu d'un chiffre, ou d'écrire quelque chose sur le bulletin de vote qui pourrait vous identifier. Le vote est obligatoire. Les motifs valables d'abstention sont à la discrétion de l'AEC, qui évaluera votre situation particulière. L'AEC comprend, par exemple, que certaines personnes se trouvant à l'étranger puissent ne pas être en mesure de voter. Ne pas voter peut entraîner une amende, explique le porte-parole de l'AEC, Akin Smith.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine, you just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
La vraie sanction est cependant de ne pas avoir votre mot à dire, alors effectuez toujours des recherches et votez en toute connaissance de cause. Pour plus d'informations et savoir comment voter, rendez-vous sur le site internet de l'AEC, aec.gov.au, ou vous pouvez téléphoner au 13 23 26.
Help Myself, nous ne faisons que passer, c'était Gaëtan Roussel. Tout de suite, la deuxième partie de l'interview de Suzanne Folkiner par Jean-Noël Ducasse. Elle nous parle de son livre Rose sur la vie de Rose de Fraissinet et de son journal de voyage autour du monde à bord de l'Uranie entre 1817 et 1820. C'était il y a plus de 200 ans.
Let's talk about the stopovers. In Brazil, she's in a state of shock about slavery and the treatment of slaves. And then also she arrives in Mauritius, where the slaves there were treated with more compassion.
Well, she wanted to believe that. I think it was probably true. But she was probably quite horrified by slavery in Brazil. But then, of course, when she landed in Mauritius and discovered that slavery was also a practice of her own countrymen, she became a little more mollified about it. In France, Napoleon had reintroduced slavery, but it restricted it in France itself in the interests of racial purity. So a lot of French were not really aware that in their colonies or their territories that slavery was a very widespread practice.
Your reference in Mauritius to the story of Paul and Virginie by Bernardin de Saint-Pierre, I was really impressed by that. I mean, of course, it's not a real story, we should note, but you actually pointed that out in your book.
Well, a lot of the more educated officers and the ship's artists were very interested in this story and were looking forward to visiting all the places that they thought were the sites of a true story. So on asking around and I think they were quite disappointed that it was largely fictional.
And in the book you also mention the heartbreaking story of her missing a sister by one day. The sister arrives in Mauritius and the ship and the Uranie had left the country one day before.
Yes. Their mother, who had been running a successful boarding school for young ladies who came to Paris to learn French and learn correct etiquette, had come upon hard times, and she'd retreated to a convent. She was a very pious woman, as was Rose herself. And with no money, Rose's sister, Stephanie, she was forced to go out and get a job as a governess. And because they had connections in Mauritius, it was arranged that she would go to a family there. And by a strange coincidence, the ship that she arrived on came the day after Louis' ship, the Uranie, had left. So when Rose received a letter from another ship, she thought it had come from Paris, and then she discovered that it had come from Mauritius, and her only sister had arrived the day after they'd sailed away. So she was heartbroken.
Tell us about her stay in Port Jackson. I think it's around September, November 1819. What were impressions of Sydney? Somewhere I've read that when she was writing a journal, I think several pages were lost in the Falklands when there was a shipwreck of the Uranie.
Yes, that's a bit of a mystery. She did suffer from migraine headaches, and there are gaps in her journal when she felt too unwell to write. But there appears to be a whole section missing. And I don't know whether this is because somebody decided that she'd written some indiscreet things, or whether it just got lost, or whether this section got damaged, as you say, in the shipwreck. But there is a gap. But fortunately, she was still writing to her mother and sending the letters off from every post where there might be a ship heading back to Europe. So were able to fill in the gap a bit with her letters to her mother, which Louis later transcribed. So it's not a total loss, but it's an interesting mystery as to what happened to that section. But going on to the stay in Sydney, she enjoyed Sydney hugely. She wrote that it was her favourite stopover of the whole voyage, and she made friends. She met the White Jane, the wife of Baron Field, who spoke very good French. She met John MacArthur, Captain Piper, Governor Macquarie, all the best society in Sydney, who were very keen to entertain her because she was, you know, she was a beautiful woman and she was a novelty, and I think they were all a little bit bored with their own society at that point. But as against that, the first night she spent ashore, which was in a house in the Rocks, which is an area near the harbour, which was a bit disreputable in those days. A lot of convicts and freed convicts lived there. They went to sleep on the upper floor, and a thief crept in and stole all their crested silver tableware and their servants' clothing and some of their own clothing. And next morning, when they discovered that they'd been robbed, they actually had to send out to buy new cutlery so they could have their lunch.
And when the couple went back to France, they did not enjoy good health. Was it a result of being away at sea for such a long period?
No, not in this case. Rose died quite young. But it was during the cholera epidemic in Paris of 1832. Louis contracted cholera, as a lot of people in Paris did in that year. And Rose helped to nurse him back to health, along with one of the ship's medical officers who'd remained a close friend of theirs. But she contracted it herself. And as she was in bad health due to various stomach problems that she'd had, and she was in a weakened state, she contracted it and died within 3 days. And Louis was heartbroken. And a lot of his friends believe that his own premature death, which was, I don't know, about 10 years later, was due to his grief at losing Rose.
I've read also somewhere that Rose mentions that on that journey she has no regrets, like that song made famous by Edith Piaf.
Je ne regrette rien. Mm. Yes. She does say somewhere that while she might have risked the condemnation of the world, because, of course, they'd broken naval law, she could have ruined her husband's career by doing this. But they were both so much in love that they just didn't want to be parted. And Louis was a very punctilious naval officer. He was very loyal to the Navy. He always obeyed the rules. But he did this extraordinary thing of going completely against naval regulations and smuggling his wife on board because he couldn't bear to be parted from her. So it's a very romantic story.
Thank you so much for coming on to SBS French and speaking about your book, Rose, the story of Rose de Fraissinet, published, I remind the listeners, by ABC Books. Thank you so much.
It was a great pleasure.
Vous êtes avec Radio SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Cette interview est à retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au/french. Il est 13h55, l'heure du rappel des titres. La dernière ligne droite avant l'élection fédérale de samedi, l'opposition dévoile ses plans de financement et dénonce le gaspillage du gouvernement Morrison. 85e jour de guerre en Ukraine, pour la première fois un procès pour crimes de guerre s'ouvre à Kiev, celui d'un jeune soldat russe de 21 ans qui plaide coupable pour l'assassinat d'un civil ukrainien non armé. Et enfin, l'ONU alerte sur de nouveaux records, des marqueurs clés du changement climatique, concentration de gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer, température et acidification des océans au plus haut, tous les voyants sont au rouge selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale dévoilé par l'ONU. Déjà une heure ensemble, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en intégralité ainsi que toutes nos chroniques sur notre site internet sbs.com.au/french, sur notre page Facebook SBS French ainsi que sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Merci d'avoir suivi ce programme, merci de votre fidélité. On se retrouve samedi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite une merveilleuse journée.
Dans la Mercedes, c'est de l'espoir que je caresse.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.